Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Kudiach avec vous. Il est 19h30 en temps universel. Au sommaire du Monde aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, à nouveau condamné à un an de prison par la CPI, cette fois pour subordination de témoins. Journée mondiale de l'eau. En 2040, un enfant sur quatre aura un accès difficile à l'eau potable. Les 68 pays membres de la coalition contre le groupe État islamique sont réunis au grand complet à Washington. Rex Tillerson promet la défaite de Daesh. Attaque devant le Parlement britannique, le bilan fait état d'un mort et de 20 blessés graves. La police parle d'attentats terroristes. La Cour pénale internationale a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à un an de prison et 300 000 euros d'amende pour subornation de témoins. Le point tout de suite d'Ilidico.
La Chambre vous inflige, Monsieur Bemba, une peine supplémentaire d'un an d'emprisonnement suite à votre peine actuelle, a déclaré le juge Bertram Schmitt dans le cadre du procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de Jean-Pierre Bemba. Bemba a été reconnu coupable en octobre d'avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité de faux témoignages devant la CPI en échange d'argent, de cadeaux et de promesses d'installation en Europe. Jean-Pierre Bemba a aussi été condamné à verser une amende de 300 000 euros, une somme qui sera transférée au fonds pour les victimes. L'ancien homme d'affaires de 54 ans a déjà été condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour des meurtres et des viols commis en Centrafrique par sa milice, le mouvement de libération du Congo, entre octobre 2002 et mars 2003.
Un conflit entre deux des plus grandes ethnies du Nigeria a fait au moins 46 morts et une centaine de blessés les 7 et 8 mars dans la ville d'Ifeife, dans le sud-est du pays. Au lendemain d'un incident dans un marché, des bandes de Yoruba ont attaqué, certains avec des armes blanches, des habitations et des commerces dans le quartier Haoussa de Sabo. Des forces spéciales ont été déployées pendant 2 jours, tentant de contenir les violences. Des habitants d'Ifeife affirment que le bilan pourrait s'élever à 150 morts. Au Nigeria, toujours, 5 attaques suicides coordonnées ont frappé un camp de déplacés près de Maïdougouri, aujourd'hui dans le nord-est du pays, faisant 3 morts et une vingtaine de blessés. Environ 200 militants de l'opposition zimbabwéenne ont manifesté aujourd'hui à Harare, sous étroite surveillance policière, pour exiger une réforme électorale en vue d'un scrutin libre et indépendant et transparent en 2018. Le président Robert Mugabe, 93 ans, au pouvoir depuis 36 ans, a été désigné candidat par son parti. Un exercice militaire effectué aujourd'hui dans le centre de Ouagadougou au Burkina Faso a semé la panique auprès des habitants qui ont cru à une nouvelle attaque djihadiste. La circulation a été interrompue, des véhicules blindés déployés aux alentours d'un bâtiment militaire à proximité d'un important camp militaire. L'incident intervient un peu plus d'un an après l'attentat meurtrier de janvier 2016 dans la capitale. En Afrique du Sud, la police a annoncé aujourd'hui avoir arrêté 3 suspects liés au cambriolage des bureaux du président de la Cour constitutionnelle à Johannesburg. 15 ordinateurs contenant des informations sensibles sur 250 magistrats se trouvaient dans ces bureaux. Et puis en Algérie, une majorité de parents a refusé de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole et la rubéole lors d'une campagne lancée dans les écoles. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un responsable de la santé. Cet incident intervient 5 mois après le décès de 2 nourrissons après un vaccin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 3 personnes sont mortes dans un attentat terroriste à Londres aujourd'hui, où un homme a lancé sa voiture contre la foule sur un pont menant au Parlement et poignardé à mort un policier avant d'être abattu par la police. L'assaillant a donc été tué et l'on déplore 20 blessés. La séance sur un référendum d'indépendance au Parlement écossais a été suspendue. Le président français François Hollande a exprimé sa solidarité et son soutien au peuple britannique après l'attaque, où 3 lycéens français en voyage scolaire ont été blessés, dont 2 dans un état grave. La chancelière allemande Angela Merkel a également apporté son soutien et le président Donald Trump s'est entretenu par téléphone avec la première ministre britannique Theresa May. Le Royaume-Uni qui devra accepter de payer d'abord son dû à l'Union européenne, entre 55 et 60 milliards d'euros, avant d'envisager toute négociation sur un accord post-Brexit. Cette mise en garde du négociateur européen Michel Barnier intervient deux jours après l'annonce du 29 mars par la Première ministre britannique pour déclencher officiellement le Brexit. Les 68 pays de la coalition qui se bat en Irak et en Syrie contre le groupe État islamique sont réunis au grand complet à Washington. Le point, Tatiana Mosso.
C'est la 10e réunion des 68 pays membres de la coalition pour combattre le groupe État islamique. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a promis lors de cette rencontre la mort prochaine du chef du groupe djihadiste Abu Bakr el-Baghdadi. Presque tous les adjoints de Baghdadi sont morts, y compris le cerveau des attentats de Bruxelles, Paris et d'ailleurs. Ce n'est qu'une question de temps avant que Baghdadi lui-même rencontre le même destin, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Le Pentagone a annoncé que l'artillerie américaine soutenait une offensive contre un barrage stratégique près de Raqqa, mais les États-Unis et la Turquie s'opposent sur la force qui doit conduire l'assaut final. Entre 3000 et 4000 djihadistes sont retranchés dans cette ville de 300 000 habitants et les combats s'annoncent difficiles. D'ailleurs, le Pentagone va doubler ses effectifs en Syrie avec l'envoi d'un millier de soldats supplémentaires.
En Syrie, 33 civils ont trouvé la mort dans un raid de la coalition dirigée par les États-Unis. Le bombardement visait une école qui abrite des déplacés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le point, Morgane Guiriec.
Le commandement de la coalition contre le groupe État islamique a indiqué qu'il allait mener une enquête après un bombardement qui aurait fait plusieurs dizaines de victimes civiles au sud d'Al-Mansoura, près de Raqqa. Ce dernier carnage intervient alors que Washington et ses alliés ont déjà été montrés du doigt la semaine dernière pour un autre raid qui a fait des dizaines de victimes civiles dans une mosquée. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 49 civils ont été tués. Les États-Unis ont nié avoir bombardé ce lieu de culte et ont publié très rapidement une photo du site touché. D'après Washington, le bâtiment frappé accueillait une réunion de chefs d'Al-Qaïda dans le village d'Al-Jineh, dans l'ouest de la province septentrionale d'Alep. La réunion se tenait à proximité de la mosquée. Le Pentagone a dit lundi être en train de vérifier si ce bombardement a fait des victimes civiles.
La justice italienne a confirmé aujourd'hui s'intéresser de près aux activités des ONG qui viennent au secours des migrants en Méditerranée afin de comprendre si elles ont notamment des contacts directs avec les trafiquants en Libye. S'il est confirmé que les trafiquants appellent directement les ONG pour les informer de leurs activités et les aider à sauver les migrants, ces dernières pourraient être accusées de complicité dans ce trafic. Et sur le même sujet, la garde civile espagnole a annoncé aujourd'hui avoir arrêté 16 Marocains, membre d'un groupe facilitant l'immigration illégale. Chaque migrant payait 1200 euros à l'organisation pour un voyage dans des embarcations vétustes. Mais une fois arrivés en Espagne, ils se voyaient retirer leur téléphone portable et étaient retenus en otage, les passeurs réclamant à leur famille au Maroc un nouveau paiement de 350 à 700 euros. C'est ce qu'ont précisé les autorités. Le groupe, qui profitait aussi des traversées pour introduire du haschich en Espagne, a ainsi récolté jusqu'à 350 000 euros, selon elle. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, l'UNICEF a publié un rapport alarmant. D'ici 2040, un enfant sur quatre dans le monde aura un accès insuffisant à l'eau potable. Claire Morin-Gibourg.
Le rapport de l'UNICEF est très inquiétant. D'ici 20 ans, près de 600 millions d'enfants vivront dans des zones avec des ressources en eau potable très limitées. L'accroissement de la population et les effets du réchauffement climatique sont mis en cause. Aujourd'hui, plus de 36 pays ont des difficultés d'approvisionnement en eau, selon ce rapport, notamment des régions du Nigeria, de Somalie, du Soudan du Sud ou du Yémen. 1,4 million d'enfants risquent de mourir de famine dans les prochains mois. Plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhée en raison d'un mauvais environnement sanitaire et d'un accès insuffisant à l'eau potable. L'eau insalubre provoque également des retards de croissance. Parmi les recommandations, l'UNICEF appelle les gouvernements à se pencher en priorité sur les problèmes d'approvisionnement en eau potable. Également, le recyclage des eaux usées aiderait, selon l'ONU, à résorber les problèmes de manque d'eau et à protéger l'environnement.
En France, les femmes et l'Afrique seront à l'honneur cette année au festival très prisé d'Avignon. La pièce Unwanted de la Britannique d'origine rwandaise, Dorothée Munyaneza, sur les enfants nés de viol pendant le génocide au Rwanda, ou encore Kalakuta République du chorégraphe burkinabé Serge Aimé Koulibaly, et en clôture, Femme noire de Léopold Sédar Senghor avec Angélique Kidjo, Isaac de Bankole et le musicien Manu Dibango. Quelques secondes pour vous rappeler les titres importants de ce bulletin. Jean-Pierre Bemba, à nouveau condamné à 1 an de prison par la CPI, cette fois pour subornation de témoins. Journée mondiale de l'eau, en 2040, 1 enfant sur 4 aura un accès difficile à l'eau potable. Et puis les 68 pays membres de la coalition contre le groupe État islamique qui sont réunis au grand complet à Washington, ici. Et Rex Tillerson promet la défaite de Daesh et puis attaque devant le Parlement britannique, un mort et plusieurs blessés graves. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco et ce soir, c'est Jacques Aristide qui la présente.
Après le divorce annoncé avec sa filiale camerounaise Mesa Press, le groupe français Prestalis, qui est engagé dans la distribution de journaux et de livres en Afrique, ne parvient toujours pas à trouver un repreneur à l'approche de la date butoir du 31 mars. À partir de cette date, Mesa Press, principal distributeur de journaux au Cameroun, devrait cesser ses activités en raison de pertes cumulées. Prestalis a mis l'entreprise en vente pour 1,3 milliard de francs CFA, mais interrogé par Jeune Afrique, une source proche de Sopecam, la société de presse et d'édition du Cameroun, a jugé cette offre surévaluée. Accord de partenariat entre la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud dans le domaine des hydrocarbures. Malabo et Juba entendent collaborer sur des projets dans le secteur gazier et pétrolier et promouvoir surtout la collaboration entre leurs compagnies pétrolières nationales. C'est Vital, le groupe algérien présent dans l'agroalimentaire, compte s'implanter en Éthiopie. Son patron Issad Rebrab a annoncé hier, lors de l'Africa CEO Forum à Genève, la création d'une unité de transformation d'oléagineux en Éthiopie. Le projet, facilité notamment par la nouvelle ligne de train rapide entre Addis Abeba et Djibouti, nécessitera un investissement de 360 millions de dollars environ.
Sport à présent avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Oui, bonsoir Anastasie. Bonsoir à tous.
Alors, la Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur depuis hier.
L'ancien international belge Marc Wilmots a donné sa première conférence de presse ce mercredi depuis Abidjan. On rappelle que Wilmots, dont c'est la première aventure africaine, aura pour mission de qualifier la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018 et la CAN 2019. On écoute le nouveau sélectionneur des éléphants.
Je voulais étudier votre pays, votre culture. Et le football, je pense que c'est le petit Brésil d'Afrique, que vous avez une génération exceptionnelle et que maintenant on est un peu dans un trou, comme on était avec l'équipe belge, qui pendant 12 ans, on n'avait pas eu de tournoi et il fallait remettre des choses en place. Donc je peux m'appuyer sur une certaine expérience et aussi avec quelques personnes qui viendront m'accompagner pour faire de cette équipe de nouveau une équipe qui a envie de gagner. Et je suis entièrement d'accord avec le président, détruire c'est facile, construire c'est plus dur. Alors, si vous me demandez pourquoi je suis venu ici, je suis venu pour construire quelque chose, un projet. Et je suis certain d'une chose, il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes et j'aime lancer les jeunes.
Marc Wilmots, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Retrouvailles attendues entre Neymar et Cavani en Amérique latine.
2 semaines après la spectaculaire remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain, 2 des meilleurs attaquants du monde, Edinson Cavani et Neymar, se retrouvent à nouveau face à face demain pour un duel entre l'Uruguay et le Brésil dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. L'Uruguay jouera sans son autre attaquant vedette, Luis Suarez, ni son gardien titulaire, Fernando Muslera, tous deux suspendus pour avoir accumulé trop de cartons jaunes.
NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State, leader de la conférence Ouest, a remporté sa 5e victoire d'affilée à Dallas face aux Mavericks, 112-87, tandis que San Antonio, numéro 2 de la conférence Ouest, a battu les Timberwolves de Minnesota sur leur parquet 100-93. Dans la conférence Est, DeMar DeRozan a fait le show avec ses 42 points qui ont permis à Toronto de prendre le meilleur en prolongation sur Chicago 122-120.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans la deuxième partie de notre rendez-vous. Suite et fin ce mercredi de la visite de Marine Le Pen au Tchad. Le programme de la visite de la candidate Front National à l'élection présidentielle en France est tenu secret. Cette visite non officielle est pour sa part dénoncée par l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau, l'UNDR, l'opposition démocratique tchadienne. André Kodmajingar.
Elle défend une politique basée sur la discrimination. C'est une politique moyenâgeuse qui n'a même pas de sens. Et ce n'est pas une politique humaine même.
Voilà la raison principale pour laquelle l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau du chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo, s'oppose à la visite de Marine Le Pen au Tchad. Pour l'UNDR, le Tchad est un carrefour de culture et de tolérance et ne doit pas montrer une quelconque sympathie avec une candidature basée sur le racisme et la xénophobie. Larry Baou est le secrétaire national à la communauté et aux nouvelles technologies de l'UNDR.
Quand elle suppose toujours que chacun doit rester chez lui, il vaut mieux qu'elle-même reste chez elle. Pourquoi les autres candidats ne viennent pas? L'autre raison aussi, c'est que quand le président a été élu avec beaucoup de problèmes, elle est la seule personnalité à féliciter. Donc, on sait déjà de quoi il s'agit. Les Français sont partout. Est-ce qu'elle va faire le tour du monde pour visiter tous les Français?
Réaction du ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué.
Nous sommes dans un pays démocratique. Il est très important de le dire. Chaque parti politique peut se positionner sur ce processus de voyage, mais je crois que c'est une visite de campagne politique. Nous avons sur le territoire une communauté française et Marine Le Pen arrive dans une perspective de parler aux concitoyens français. Et en ce sens-là, nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire.
Arrivée ce mardi, elle a été reçue par le chef de l'État Idriss Déby Itno dans sa villa privée à Amdjaras, à l'est du Tchad. Marine Le Pen parle de l'entretien qu'elle a eu avec le chef de l'État tchadien.
Nous avons discuté de la situation du terrorisme qui est un drame pour les pays qui en sont victimes, dont la France. Nous avons discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir avec le G5 Sahel, et nous avons partagé en quelque sorte les inquiétudes qui étaient les nôtres sur la situation de la Libye. Monsieur le Président et moi-même avions la même analyse. Au moment de l'intervention française, nous pensions qu'il s'agissait c'est là d'une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons envisagé de nous revoir. Je souhaite que ce soit dans le cadre d'une visite officielle ou peut-être j'inviterai le président Déby à l'Élysée.
À N'Djamena, Marine Le Pen a rencontré successivement ce mercredi les éléments de la force Barkhane, la première dame Hinda Déby Itno et le président de l'Assemblée nationale. Elle a fini sa visite à l'hôpital mère et enfant de N'Djamena. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
À Abidjan, les pénuries d'eau potable sont fréquentes depuis quelques temps et c'est un véritable calvaire pour les habitants des communes concernées. Notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tonkara, s'est rendu à Mikao, un quartier particulièrement touché par le problème dans la commune de Yopougon.
La route qui mène au quartier Mikao est difficilement praticable. Le bitume prend fin avec la zone industrielle. C'est une route boueuse qui nous conduit dans ce quartier où vivent plus de 10 000 personnes. Il y a quelques jours, les femmes de cette cité sont descendues dans les rues pour crier leur ras-le-bol face à la pénurie d'eau qui affecte leur quotidien. Rokia Soro est commerçante. Elle résume ici la détresse des habitants de Mikao.
Vraiment, c'est un moment vraiment. Ces femmes ont marché. On a pris les bidons, des seaux, rien que pour avoir de l'eau à boire. Il n'y a pas d'eau, il y a les nourrices, les femmes. Il n'y a pas l'eau même du tout, du tout. Avec le soleil, il fait chaud, on a besoin d'eau. Les femmes, elles chargent l'eau, ça tonnerre. Nous sommes musclés, on ne dort pas la nuit comme la journée, tout. Parce que la nuit même, tu ne vas même pas te toucher, parce qu'il n'y a pas l'eau.
Jacques Siloué est étudiant, il ne dit pas autre chose.
Un bidon pour trois personnes, chacun se lave un peu. Et tu te laves le matin, tu attends le lendemain matin pour te laver. Soit tu te laves le soir, tu ne laves pas le matin. Tu es en veille, tu peux rester là toute la nuit, on t'attend l'eau, zéro.
Assise non loin de Jacques, Ruth Conan acquiesce de la tête avant d'ajouter.
Après, on n'en dort pas. Juste à 3h du matin, tu te couches. Matin, tu as te lever encore pour aller dans tes activités. Une heure encore, tu vas attendre pour puiser l'eau. Mais...
Pour la femme, ça doit être encore plus dur par rapport aux hommes.
C'est dur, mais les bidons d'eau, on transporte sur nos têtes.
Ces pénuries d'eau qui rendent la vie difficile à Yopougon Mikao ne datent pas d'aujourd'hui, selon Georges Okwadio, l'un des responsables du quartier.
Sinon, depuis 2008, il n'avait pas de l'eau ici. On est passé par tous les moyens. Jamais de l'eau ici.
Sans eau, comment vous viviez?
On payait de l'eau, comment dirais-je, avec les revendeurs d'eau. Un bidon, on achetait des bidons à 50 francs. Donc, c'est ça, on a passé tout le temps à payer.
Face à ce manque d'eau dans les robinets, les habitants de Mikao disent s'en remettre au ciel. Rokia Soro.
C'est Dieu, on peut dire que c'est Dieu, parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est Dieu qui donne de l'eau à l'homme. Quand il pleut, quand vraiment ça nous arrange, mais il ne pleut pas. Vous voyez un peu la situation.
Pour atténuer le calvaire des habitants, des camions-citernes ont été immobilisés dans le quartier pendant plusieurs jours en vue de fournir de l'eau potable. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. L'eau coule à nouveau dans les robinets et les habitants de Yopougon Mikao espèrent que cela va durer le plus longtemps possible. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, seulement 5% de la population bénéficie d'une assurance maladie obligatoire mise en place il y a 5 ans. Supervisée par l'Institut National d'Assurance Maladie, l'INAM, cette forme de protection sociale pourrait aider à lutter contre la pauvreté si elle est généralisée à l'ensemble de la population. C'est un reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Depuis mars 2012, les fonctionnaires et agents publics de l'État togolais bénéficient d'une assurance maladie obligatoire. En 5 ans de prestations, l'Institut national d'assurance maladie INAM revendique plus de 300 000 bénéficiaires, des assurés qui apprécient diversement les services offerts par l'INAM.
INAM, c'est une belle initiative, mais malheureusement, depuis un moment, les services que INAM nous offre, ce n'est pas ça. Par exemple, quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes malade, vous souffrez, on te dit d'attendre des fiches à remplir. Et dans les pharmacies, lorsque tu arrives, si tu n'as pas la liquidité, on te fait attendre et on prend soin d'abord de ceux qui veulent acheter avec de l'argent en espèces.
Je suis satisfait des prestations de l'INAM. J'espère que ça va s'étendre à toute la couche sociale.
Ça vient soulager quand même la plupart des fonctionnaires. Seulement, entre-temps, on a supprimé certains produits. Il faut revoir le pourcentage des prélèvements. Ça coûte beaucoup au niveau du salaire.
Dès le début, on était fiers, mais les changements qu'ils ont eu à faire ne nous arrangent pas du tout. Puisqu'ils ont baissé leur taux de prise en charge, certains produits, ils disent qu'ils ne prennent pas en charge et maintenant, ils nous proposent des génériques.
Sur la question des produits pharmaceutiques génériques, voici les explications de la directrice de l'INAM, Myriam Dossou.
L'INAM ne contraint pas à l'utilisation des produits génériques. Il y a cette politique des génériques pour tous les programmes sociaux et les régimes d'assurance maladie. Parce que les produits génériques coûtent moins cher, parce que le générique et le produit de marque, c'est les mêmes principes actifs, c'est les mêmes compositions. Et on ne va pas payer un prix qui est plus important, alors qu'on a juste besoin de se soigner. Et je pense que lorsqu'on est en groupe et qu'on a des moyens limités, comme dans nos pays, on gagnerait à consommer le générique.
Un pays comme le Togo gagnerait également en optant pour l'assurance maladie universelle, estime Hugues Thibozo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'assurance maladie du Bénin.
Quelqu'un qui n'a pas une couverture contre le risque maladie devient un cas social. Lorsqu'il tombe malade et qu'il doit payer les soins de sa poche, il peut s'appauvrir. Il peut tomber dans la précarité. Mais lorsqu'il est couvert par l'assurance maladie, d'abord, il n'attend plus que la maladie s'aggrave avant d'aller aux soins. Dès qu'il a un petit bobo, il peut aller aux soins, se faire soigner rapidement. Et cela contribue donc à maintenir le capital humain, qui est le plus précieux des facteurs de production. Plus l'assurance maladie sera élargie à l'ensemble de la population, plus nous aurons le facteur de production à préserver et cela a forcément un impact sur la croissance, donc un impact sur la richesse. Donc le Togo gagnerait énormément.
Pour aller vers l'assurance maladie universelle, les mutuelles de santé ont aussi un rôle à jouer, nous dit Ghislaine Saïzo-Noubroum, présidente du cadre de concertation de la mutualité au Togo.
Déjà, les mutuelles jouent un rôle dans l'achat de l'offre de soins parce qu'ils sont aujourd'hui des intermédiaires entre leurs bénéficiaires et les structures, les prestataires de soins. Ils ont donc cette expérience et cette expertise-là et dans la couverture universelle maladie, elles peuvent continuer à assumer ce rôle-là. Nous avons la collecte des fonds, donc la mobilisation des cotisations, surtout auprès du monde informel, des indépendants et du monde agricole. Et lorsque les mutuelles collectent ces cotisations, elles les mettent ensemble et vont pouvoir les reverser auprès d'institutions qui vont s'occuper de l'assurance maladie universelle pour tout le pays.
L'assurance maladie obligatoire pour les agents publics est une phase pilote du projet d'assurance maladie universelle au Togo, indique-t-on. La prochaine étape sera le secteur privé formel avant de s'attaquer à la grande masse de l'informel. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 23 mars, on décrypte la situation tendue dans le Kasaï, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016 et plusieurs vidéos montrant des militaires congolais abattre des civils enveniment la situation. Dans la même province, deux experts onusiens et leurs quatre accompagnateurs congolais ont été enlevés depuis le 11 mars et on est toujours sans nouvelles. Alors que se passe-t-il réellement au Kasaï? Comment Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, William Lacy Swing, est arrivé aujourd'hui à Tripoli. La Libye est devenue le point de passage obligé des migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Depuis le début de l'année, plus de 19 000 personnes ont été secourues en Méditerranée. Solange Niamoulissa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Je pense qu'il est quand même important de rappeler déjà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 19 000 migrants qui ont été secourus en mer et qui, pour la plupart, étaient partis de la Libye. C'est 30% de plus que l'année dernière. Et c'est pas nécessairement dû au fait qu'il y aurait un appel d'air, comme ça a été évoqué par beaucoup, mais c'est davantage dû aux conditions de vie qui se sont détériorées en Libye. Et c'est la raison pour laquelle notre directeur général s'est rendu en Libye aujourd'hui et qu'il est en train de discuter avec les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur. Parce que si l'on considère que les conditions de vie en Libye constituent un facteur qui augmente les flux de migration, alors la Libye fait partie de la solution. Et c'est pour ça qu'il est important, il est fondamental de pouvoir trouver une solution avec les autorités là-bas.
Vous avez les chiffres de migrants qui ont traversé depuis les débuts de cette année?
Oui, depuis le 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 migrants d'origine d'Afrique de l'Ouest notamment, qui ont tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont été secourues en revanche par les gardes-côtes libyens et qui ont été ramenées sur les côtes libyennes. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière, à la même époque.
Alors qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces flux de migrants?
La question n'est pas tant d'arrêter les flux de migrants, c'est pas une crise de chiffres encore une fois, on fait face en revanche à une véritable crise humanitaire où des centaines de personnes depuis le début de l'année sont déjà mortes en Méditerranée. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions alternatives. C'est avec une économie qui s'est écroulée, avec une situation politique que l'on connaît en Libye, on doit pouvoir essayer d'apporter des alternatives comme par exemple des centres ouverts qui éviteraient des centres de détention où les conditions de vie sont déplorables pour les migrants actuellement en Libye. Voilà, des centres ouverts où les personnes pourraient éventuellement être présentes là-bas mais ne seraient pas emprisonnées.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Lionel Gaïma avec l'assistance technique de Calvin Fowler. Présentation Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact via Facebook et notre site voaafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.